cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 31 janvier 96.
Dans une perspective d'éthique chrétienne, j'accepte le Christ comme bien fin. Dans quelle mesure je peux ensuite choisir la personne d'un ami qui est un bien fin, moins ultime que le Christ? Plus j'aime quelqu'un de grand, je suis capable d'aimer quelqu'un de moins grand. C'est l'inverse de la quantité, vous voyez. C'est dans de la qualité, ça. Saint Thomas se pose la même question à propos du Christ sur la lumière. C'est pas parce que l'œil brille, que toutes les autres lumières disparaissent, chacune dans son ordre. Et au point de vue de l'amour, c'est encore beaucoup plus vrai. Aimer quelqu'un qui pour moi est ma fin me donne une liberté intérieure très grande. C'est sûr, je n'aimerais pas un autre bien, une autre personne de la même manière, c'est sûr. Mais je l'aimerais relativement à Dieu, à Jésus. Et donc comme un bien qui, dans l'ordre humain, est le plus parfait des biens. La grâce ne supprime pas la nature. Dieu n'est rival d'aucune. L'amour de Dieu n'est rival d'aucun autre amour. Au contraire, il en est la source et les fondes. Alors, psychologiquement, je dirais l'amour de Dieu peut me prendre énormément au point de vue du temps, c'est sûr. Donc ça, c'est un raisonnement quantitatif et psychologique. Mais au point de vue profond, c'est l'inverse. C'est-à-dire au point de vue qualitatif, c'est juste l'inverse. Plus mon intelligence est actuée, ou plus ma volonté est actuée par un bien grand, plus elle est capable d'aimer. Et plus elle est capable d'aimer d'autres personnes et de les aimer pour elles-mêmes, comme Dieu lui-même les aime. Je crois que c'est la différence avec la quantité. Tandis que la qualité, en tant qu'elle actue, m'éveille à autre chose. Autre question, pourquoi, pour nous offrir une nouvelle vie, le Christ se sert-il de ce qu'il y a de plus obscur pour l'intelligence humaine, la mort? Faut bien comprendre cela dans la sagesse de Dieu. D'abord, c'est pas le Christ qui l'a choisi, c'est le Père qui l'a choisi pour lui. Faut quand même respecter. Puisque le Christ meurt dans l'obéissance. Donc s'il meurt dans l'obéissance, ça prouve qu'il accomplit la volonté d'un autre. Et ça, c'est important. La mort, prise en elle-même, je suis tout à fait d'accord, la mort prise en elle-même, la mort du Christ est une mort qui est complètement complètement dépassé par l'amour. Puisque Jésus s'offre lui-même. C'est pas un suicide. C'est une offrande d'amour. Il faut bien comprendre. On ne regarde pas la mort en soi. La mort en soi, c'est la négation de la vie. Mais la mort à la croix est utilisée par le Christ. Et c'est ça la sagesse de Dieu. Qui utilise la mort pour exprimer le plus grand amour. Je comprends qu'à première vue, selon notre perspective humaine, c'est incompréhensible. Mais dans la perspective de Dieu, il n'y a rien de plus grand. Et c'est dans cette perspective-là qu'il faut regarder le mystère de la croix. C'est un mystère. Alors pour le philosophe, il sait que c'est cela qui a été choisi par Dieu, dans la sagesse de Dieu. Donc si Dieu l'a choisi dans sa sagesse, il y a une raison à tout ça. L'amour est plus fort que la mort. Et donc la grande manifestation d'amour, c'est de se servir de la mort pour manifester l'amour qu'on a pour le Père et pour les hommes. C'est pour ça, saint Paul le dit du reste, le mystère de la croix est folie et scandale pour l'homme qui regarde les choses de l'extérieur et c'est sagesse pour le croyant. Bon. Le philosophe est capable, quand il regarde le mystère du Christ, de savoir que le Christ vient pour sauver les hommes et qu'il reconnaît lui-même que pour sauver les hommes, il faut être plus homme que tous les hommes. Et le Christ n'agit pas comme un homme, il agit comme un envoyé du Père, comme un envoyé de Dieu. Et ça, le philosophe doit être attentif à ça. Le philosophe qui atteint la sagesse, donc qui découvre le mystère de Dieu. On a mis l'éthique chrétienne après l'éthique religieuse. Si vous niez l'éthique religieuse, a fortiori, vous niez l'éthique chrétienne. Pour pénétrer dans l'intelligibilité de l'éthique chrétienne, il faut l'éthique religieuse. L'éthique religieuse reconnaît la sagesse du Créateur. Et quand Jésus meurt dans l'obéissance, il relativise la mort. Et c'est ça qui est merveilleux, par l'amour. Et c'est bien ça qui fait comprendre le secret le plus grand du christianisme. C'est que même la mort, qui pour nous est l'absolu négatif le plus fort, c'est la négation qui s'impose la mort. Vous ne pouvez rien en face de la mort. Et aucun homme ne peut quelque chose en face de la mort. Il est battu, l'homme, en face de la mort. Le savant est battu. Le médecin est battu. Et l'homme est battu en face de la mort. Il est obligé de s'incliner. C'est du reste pour ça que les enterrements ont toujours été les manifestations religieuses les plus éclatantes. Parce que c'est là où on est obligé de reconnaître qu'on s'incline devant une volonté qui nous dépasse tous. En dehors de la mort, il n'y a pas d'expérience absolue. Mais la mort est une expérience absolue. pour ça que les premiers philosophes qui étaient dans le point de vue de l'existentialisme, les premiers disciples de Sartre sont suicidés pour vivre l'expérience absolue. C'est la seule expérience absolue. C'est donc ce qui, pour l'homme, est le plus frappant. Vous ne pouvez pas être indifférent face à la mort. Mais c'est net. Quelqu'un comme Mitterrand, qui, durant sa vie, je cherche la transcendance. Je suis au-dessus de toutes les religions. Les deux derniers mois, parce que j'ai eu des détails précis, je voulais les avoir. C'est l'action de petite Thérèse qui l'a vraiment converti. Pas du tout quelque chose d'extérieur, parce que qui l'a vraiment converti, qui a touché son cœur. Il avait fait un premier testament en demandant d'être enterré au Panthéon dans une grande apothéose laïque avec la franc-maçonnerie. Il a déchiré lui-même son testament en faisant l'inverse. Quelqu'un comme Mitterrand, quand on connaissait un tout petit peu son caractère, la mort seule empêche l'orgueil humain de rester debout. Ça, je crois. Et alors que Dieu se serve de ça, quel est le grand ennemi de l'amour? C'est l'orgueil. Rival de l'amour, c'est l'orgueil. L'orgueilleux n'aime pas, c'est-à-dire qu'il s'aime. Et en réalité, il n'aime pas. Alors, le grand orgueil, le grand ennemi de l'amour, c'est l'orgueil. Dieu se sert de la mort pour manifester son amour. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça ne peut se comprendre que dans une lumière de sagesse de Dieu. Et ça, le philosophe peut le dire. Le philosophe qui a découvert l'existence de Dieu, qui a découvert la création, le philosophe peut dire « Dieu seul peut se servir de la mort pour manifester l'amour. » Et c'est peut-être là où vous saisissez de la manière la plus forte ce qu'est l'amour divin. Il est victorieux de la mort. C'est dit dans le Cantique des Cantiques. Et on met l'amour face à la mort. Vous voyez, comprenons bien, qu'au point de vue de l'intelligibilité, c'est vrai que la mort n'est pas intelligible pour nous. C'est un scandale. Mais on parle de l'amour. C'est là la différence du langage de l'amour et du langage de l'intelligence. Jésus n'est pas venu premièrement pour manifester sa lumière et la vérité. Il est venu premièrement pour nous faire comprendre que Dieu est amour. L'amour du Père pour nous. L'amour miséricordieux du Père dans le pardon. Et il se sert de la mort pour cela. Alors là, c'est intellectuellement, ça il faut le saisir, intellectuellement, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Dieu seul peut faire ça. Et c'est pour ça que celui qui regarde vraiment la mort du Christ, sans préjugés, est obligé de reconnaître qu'il y a le doigt de Dieu là. Ça a été du reste, hein, les bourreaux. Ils l'ont constaté. Parce que Jésus est mort d'une manière telle que la mort n'a rien enlevé à sa dignité. Parce que sa mort est une mort qui se réalise dans l'amour. Une mort qui se réalise dans l'amour est toujours quelque chose qui implique une manifestation infinie d'amour. Mais dans un monde comme le nôtre, où la négation est première, la négation la plus absolue et la plus proche, c'est la mort. Et c'est la manifestation que l'amour est seul capable de dépasser ce primat de la négation. L'intelligence peut le faire si elle est saine, mais on est si vite séduit par l'affectivité sensible qu'on met la négation avant pour exprimer tout simplement cette transcendance de notre volonté. On est capable de nier jusqu'au bout. Et vous comprenez, dans la mort, l'homme ne parle plus. Il garde le silence. Et l'amour seul peut supporter le silence et le vaincre et le dépasser. L'intelligence ne peut pas se nourrir du silence comme intelligence. Mais l'amour, oui. Et il faut, et c'est bon au plan philosophique comme au plan chrétien, essayer de comprendre comment Dieu, dans sa sagesse, peut choisir la mort pour être le moyen le plus manifeste du primat de l'amour. Jésus le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et je crois que ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compréhensible pour le cœur de l'homme. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour vous. Quand quelqu'un aime vraiment, il sait que c'est cela le plus éloquent. Oh, comme je voudrais mourir pour toi. Les amoureux disent ça. Et on comprend très bien. Parce que c'est par là qu'on montre qu'on aime vraiment l'autre plus que nous. Par les paroles, par les gestes, par la vie courante, on ne le fait pas. Par la mort, on le fait. Il y a donc dans la mort une manifestation silencieuse de l'amour qui est unique et qui touche un absolu, qui montre que l'amour est victorieux de cette négation substantielle qu'est la mort. Et donc que l'amour est au-delà, puisqu'il se sert de la mort. Et je crois que là, on est en présence du mystère chrétien dans ce qu'il a de plus absolu. C'est pour ça que c'est toujours là où il faut revenir, au point de vue éthique chrétienne. Le testament du Christ, donc sa dernière volonté d'amour pour nous, c'est le mystère même de sa mort. C'est pour ça qu'il n'y a rien écrit. Il y a le sang versé. C'est plus que décrit. C'est la grande prière, chapitre 17, dans Saint Jean. Et je crois qu'au plan philosophique, cette prière exprime bien cette transcendance de l'amour, cette volonté expresse de Jésus de glorifier son Père, cette volonté expresse de Jésus de sauver les hommes en s'offrant. Oui. La mort du Christ a cette espèce d'efficacité dans la manifestation de l'amour qui est unique, parce que précisément, il ne peut pas y avoir un geste plus humble que celui-là. Mourir comme condamné, comme un esclave, il est réduit à cela. Parce qu'il meurt comme un malfaiteur, comme celui qui nuit aux hommes, comme celui qui nuit à son peuple, et donc comme celui qui trahit. Qui trahit tout ce que le peuple d'Israël avait reçu de Dieu. C'est comme cela qu'on le juge. Et c'est sous cet aspect-là qu'on le rejette et qu'il meurt. Oui, c'est pas du tout la mort glorieuse sur le champ de bataille. Non. C'est la mort ignominieuse sur le champ de bataille. Et au cœur du champ de bataille. Mais rejetée. C'est pour ça qu'elle est ignominieuse. Rejetée et dans le lieu fétide, comme dit Thomas d'Aquin à la suite des pères. Puisque c'était le lieu où les esclaves étaient crucifiés et qu'on laissait leur corps sans les enterrer, qui dans l'Antiquité est l'ignominie la plus grande à l'égard de quelqu'un, de ne pas l'enterrer et de laisser les oiseaux voraces manger la chair des morts. Mais tout cela est présent dans ce mystère de la croix du Christ. C'est dit dans les psaumes, de façon prophétique. C'est dit dans Isaïe, pour montrer que de fait, le serviteur de Dieu, dans sa mort, accepte la dernière place de tous les hommes. La place la plus rejetée. Lui, par nature et roi de l'humanité, puisqu'elle est le plus qualifié, et celui qui comprend le mieux ce qu'est l'amour et la finalité des hommes. Il accepte de mourir comme le dernier des derniers. Ceci pour que le témoignage prenne plus de force, pour que la négation de la mort prennent plus de force. Vous voyez, vous essayez de comprendre que dans la mort du Christ, toutes les morts sont présentes. Donc il y a la mort est déjà un absolu. La manière dont le Christ meurt, c'est toutes les négations qui sont présentes. Mais il meurt par la trahison d'un ami. Comme rejeté de son peuple. Il meurt entouré de deux brigands et rejeté encore par un de ses brigands. Il meurt humainement dans un désespoir absolu à 33 ans. Et un seul de ses disciples est présent. Et sa mère et quelques saintes femmes. Mais il faut essayer de comprendre. Parce que ça, c'est quand même la révélation. Comment la mort de Jésus apparaît comme la mort la plus ignominieuse qui soit. Et c'est parce que justement, cette mort est enveloppée d'amour, transformée par l'amour, que la mort du Christ manifeste de la manière la plus éclatante le primat absolu de l'amour divin. Vous êtes obligé là de purifier complètement votre regard pour ne pas confondre la manière dont se fait cette manifestation et le cœur de cette manifestation. Bon, je crois qu'il faut maintenir que la mort de Jésus est vraiment le lieu où la réalité, l'acte par excellence qui nous aide à saisir l'éthique chrétienne. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des objections internes, de les expliciter. C'est très important, ça, pour nous. C'est l'intérêt d'un regard philosophique sur le Christ, pour faire une éthique chrétienne. Vous êtes obligé à ce moment-là, si vous voulez le faire sérieusement, de faire sortir toutes vos objections, les vôtres, celles que vous avez entendues, et auxquelles vous n'avez pas encore répondu. De faire sortir toutes les objections d'un agissement tel que celui de la croix, qui reste l'acte le plus net de toute la vie du Christ. Vous voyez, en face de la croix, on ne peut plus rester indifférent. On est obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Alors, si on veut comprendre, on essaie de se mettre à l'école de Jésus. Ou bien, au contraire, on le rejette en disant, c'est impossible, donc on ne veut pas le regarder. On ne peut pas rester indifférent, c'est impossible. Et c'est, je crois, la puissance de la croix du Christ. C'est que cette manifestation de l'amour est plus forte que n'importe quelle autre manifestation. Oui, quand il y a des manifestations de miséricorde, Jésus qui guérit un malade, Jésus qui ressuscite un mort, c'est très beau, c'est très grand, mais ça n'a pas l'absolu du testament. La mort de Jésus crucifié. Et ça, je crois que pour nous, c'est nécessaire aujourd'hui. C'est pas de l'apologétique, vous voyez. C'est juste l'inverse de l'apologétique, d'une certaine manière. Parce que c'est poussé, du point de vue de la manifestation de l'amour, par la croix le plus loin possible, pour voir qu'en effet, ça touche quelque chose qu'un homme n'aurait pas inventé. Difficile d'inventer ça. On ne pourrait pas. Que Dieu l'a voulu. Pour que l'humanité soit en présence de la manifestation la plus forte de l'amour divin. Ceci permet aux philosophes de montrer que si on n'accepte pas le primat de l'amour et l'absolu de l'amour tel Jésus le dit quand il dit le commandement à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain. Le premier commandement d'amour à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain résume tout. Toute la loi, tous les commandements sont achevés dans ce commandement-là. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces. Aimez le prochain comme vous-même, comme Dieu l'aime. C'est vraiment l'amour à l'égard du Père et à l'égard du prochain qui est l'âme profonde de l'éthique chrétienne. Ça, je crois qu'on peut l'affirmer philosophiquement en regardant les textes, en regardant la vie du Christ de la manière la plus forte qui soit. Si cette éthique est une éthique qui met l'amour au-dessus de tout, et qui d'une certaine manière divinise l'homme, le surhomme, par l'amour et dans l'amour, puisque aimer Dieu et aimer le prochain, c'est le même amour. Donc ça divinise l'homme. Divinise tout en reconnaissant qu'il n'est pas Dieu, mais qu'il est Dieu par surcroît d'amour, et que l'amour seul peut faire ça. Là, on peut saisir, alors, voyez, comment la vie chrétienne est vraiment, premièrement, une vie d'amour, au-delà de tous les préceptes. Et une vie d'amour qui maintient tous les préceptes antérieurs. Mais nous met dans un regard supérieur à tout ce qui s'est passé avant. Et qu'il y a quelque chose d'original, de tout à fait nouveau au point de vue de la sagesse divine à la croix. Que c'est, d'une certaine manière, ce qui résume tout en l'achevant et en nous donnant une nouvelle lumière pour toute l'Écriture, pour toute la révélation, qui doit être vue dans la lumière de la croix du Christ. Si vous voulez lire l'Écriture de la manière la plus vraie, vous devez la lire dans la lumière de la blessure du cœur du Christ, dans l'holocauste de la croix. Et tant que vous ne lisez pas l'Écriture dans cette lumière, au point de vue pratique, il y a quelque chose qui manque. Et il y aura toujours quelque chose de boiteux. C'est pour ça que c'est si exigeant. Alors, deuxième point qu'il faut regarder, cet absolu de l'amour va s'affirmer d'une manière éclatante par le grand discours du Christ sur les béatitudes. Alors je crois que là, il faut tout de suite comprendre que seul Saint Jean ne nous donne pas le discours du Christ des béatitudes. Parce que il le montre qu'à la croix, Jésus vit des béatitudes d'une manière éminente. Alors on peut, et même ça aide, de montrer comment Jésus à la croix vit des béatitudes d'une manière éminente, et qu'il devient pour nous cause exemplaire des béatitudes. Par là, nous comprenons mieux le réalisme des béatitudes. Les autres évangiles reprennent chacun à sa manière les béatitudes comme étant la structure propre de la vie chrétienne. Mais les béatitudes sont vécues par le Christ à la croix. Et les béatitudes nous sont données pour que nous comprenions comment ce mystère de la croix demande d'être vécu dans notre vie humaine, dans notre cœur humain, dans notre intelligence humaine, dans la foi, l'espérance et la charité. C'est important de voir le lien entre les béatitudes proclamées par Jésus au début de sa vie apostolique, selon saint Matthieu. Comment les béatitudes sont le fruit direct du mystère de la croix. Et comment les béatitudes nous permettent de regarder divinement la croix et non pas d'une manière humaine. Les béatitudes nous communiquent comment Jésus a terminé sa vie. Comment, de fait, Jésus a voulu, à travers les béatitudes, nous faire comprendre le rayonnement propre de l'amour divin, l'amour à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain. Parce que les béatitudes sont vécues toujours à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain. Il y a toujours ces doubles aspects. Et chacun de ces aspects implique à la fois un aspect négatif et un aspect positif. Oui, l'aspect positif, c'est l'amour. L'aspect négatif, c'est l'exigence de l'amour divin. Et je crois qu'il faut, à ce moment-là, comprendre au plan philosophique comment saint Augustin et saint Thomas rattachent les béatitudes au don du Saint-Esprit. Ça nous aide beaucoup à saisir le caractère propre des béatitudes. Je ne crois pas du tout que c'est quelque chose d'extérieur et de secondaire. Je crois que c'est quelque chose de capital. Tant qu'on n'a pas fait cet effort-là, on comprend les béatitudes d'une manière très descriptive et très extérieure. Tandis qu'au contraire, si vous faites cet effort que saint Augustin a fait, que saint Thomas a fait, des quantités de saints ont fait. Vous essayez de saisir les béatitudes comme l'action de l'Esprit du Christ dans chaque chrétien. Chaque chrétien reçoit avec la grâce et la charité les dons du Saint-Esprit. Les sept dons du Saint-Esprit. Et les sept dons du Saint-Esprit, dans leur exercice propre, vont vivre des béatitudes. C'est par là que vous pouvez saisir comment la grâce chrétienne transforme complètement et radicalement la pâte humaine, la bonne terre. Comment, sous l'action de l'Esprit Saint, on est complètement transformé en enfant de Dieu. Et cet esprit, et c'est dit dans l'Évangile. c'est dit par Jésus. Et donc, il faut, si on veut comprendre l'éthique chrétienne, il faut comprendre cela. Je crois qu'il n'y a pas d'autre manière pour nous d'entrer pleinement dans l'éthique chrétienne. Oui. Autrement, on reste dans un aspect trop descriptif. Regardons tout de suite les deux dons extrêmes. Le don de sagesse et le don de crainte. Là encore, l'Écriture ne cesse de nous montrer les liens qui existent entre le don de crainte et le don de sagesse. La béatitude des pacifiques, le don de sagesse. La béatitude des pauvres, le don de crainte. Alors, on peut regarder le don de crainte, la béatitude des pauvres, en premier lieu. Bienheureux les pauvres. Ça nous est dit en premier lieu. Selon l'Écriture. Et on peut regarder la béatitude des pacifiques, le don de sagesse, en premier lieu, selon un ordre qui est un ordre de nature de perfection. Mais il y aura toujours les deux. Parce que de fait, dans la vie chrétienne, on commence par le don de crainte pour se terminer par le don de sagesse. Et comment, d'autre part, le don de sagesse nous est donné à tous pour que nous puissions vivre plus pleinement de la grâce chrétienne, toujours présente. Il s'exprime par le point de vue de l'offrande de tout nous-mêmes à Dieu. Dans un ordre de vision qui doit être de plus en plus lumineux, ce point de vue de tout ordonner à partir de la volonté du Père. Jésus accomplit la volonté du Père à la croix. Et nous-mêmes, nous accomplissons la volonté du Père en nous offrant tout nous-mêmes